Et puis je vais inviter les participants à notre dernière table ronde à nous rejoindre sur scène. Une recherche qui est aboutie, qui est terminée aussi depuis quelque temps, qui s'appelle « Mes amours, accès à la vie amoureuse et à la sexualité des personnes présentant une déficience intellectuelle ». Construction d'un programme de formation et de recherche appliquée avec et pour des personnes présentant une trisomie 21. C'est une recherche qui a été co-construite, là encore, en lien étroit avec les personnes porteuses de trisomie 21 qui vivent en milieu ordinaire. Une recherche qui a abouti au développement d'outils pour une éducation à la sexualité, répondant aux besoins et aux attentes des personnes concernées. Et il y a donc Yves-Jeanne aux côtés de Jean-Claude Amezen. Yves-Jeanne qui est maître de conférence à l'Université Lumière Lyon 2. À ses côtés, Marie-Laure Dupin, qui est guide de l'exposition et qui va nous parler de cette formation, de ces formations qu'elle fait en binôme avec Antoine, qui n'a pas pu être avec nous ce soir. Peut-être que Cécile en dira un mot. Cécile Dupas, vous faisiez partie du comité de pilotage de la recherche à l'époque en tant que présidente de Trisomie 21 France. Aujourd'hui, vous en êtes encore présidente d'honneur. Je le disais à l'instant, donc Antoine, qui est une personne porteuse de Trisomie 21, devait être avec nous ce soir. Elle n'a pas pu l'être. C'est parfois un petit peu compliqué, malgré tous les efforts qu'on fait, d'avoir des personnes avec nous. Peut-être vous vouliez dire un mot sur cette absence ?
Oui, alors sur l'absence d'Antoine en particulier, puisqu'il n'a pas pu se libérer de son travail, et puis il y avait aussi une question de fatigabilité. Au-delà du cas d'Antoine, ce que je voulais dire juste avant qu'on commence à parler effectivement du projet, c'est il faut se réjouir, hein, parce qu'aujourd'hui, les personnes concernées, alors pour nous, personnes avec trisomie ou déficience intellectuelle, sont de plus en plus sollicitées pour intervenir, pour promouvoir leur projet, leur choix. Donc ça, il faut s'en réjouir. Mais le pendant de ça, c'est qu'ils sont très sollicités sur des temporalités qui ne sont pas forcément les leurs, sur des événements ou des lieux dans lesquels il est parfois difficile pour eux de trouver leur place. Donc je pense que c'est une réflexion qu'on doit tous avoir autour de ça, c'est-à-dire on prône les environnements inclusifs, donc on fait partie de ces environnements et voilà. Et alors on vit ça nous dans les assos sur le terrain tous les jours. Hein.
Voilà, pour inclure, il faut être attentif aux besoins.
La difficulté, voilà, à nous rendre nous-mêmes inclusifs dans nos événements afin que les personnes puissent y trouver toute leur place.
On fera mieux la prochaine fois.
Mais on en est tous à peu près au même point quand même. Voilà. Voilà.
On va tout de suite, pour se mettre dans le bain de cette recherche, regarder une vidéo qui a été réalisée qui vous permettra de voir assez concrètement un des résultats de la recherche, notamment qui est cette exposition dont on va parler. Et on envoie la vidéo tout de suite.
Le projet Mes Amours est né d'une rencontre entre des universitaires et d'autre part l'association Trisomie 21 qui se posait des questions sur la façon d'accompagner et de favoriser l'accès à une vie amoureuse et sexuelle épanouissante pour les personnes porteuses de trisomie.
Tu voulais parler d'amour ? Et en fait, c'est quoi l'amour ?
De toute façon, ça n'a jamais existé, l'amour.
Mais moi, je crois au prince amour. L'amour, ça fait comme un grand cœur calme.
L'originalité de ce travail a été d'associer des personnes porteuses de trisomie, des professionnels, des accompagnants militants à la construction de l'ensemble du dispositif de A jusqu'à Z.
Bienvenue dans l'exposition de Mes Amours.
On va pouvoir parler du corps de l'homme et de la femme, du plaisir, de ce qui est autorisé et de ce qui est interdit. Pour ça, il y aura des photos, des dessins, des vidéos.
Comment ça marche, les femmes ?
Mon copain me fait l'amour avec moi, mais moi, je me sens pas prête.
Nous avons fait un certain nombre d'outils qui permettent d'échanger, parce que c'est ça qui est le plus important, d'échanger sur l'ensemble de ces questions de façon aussi riche que possible.
Venez. Ok. Alors maintenant, on va parler de juger le droit et c'est interdit.
Cette déambulation, elle est animée par deux personnes. Un ou une professionnelle ou quelqu'un qui est militant dans l'association Trisomie 21, et une personne porteuse de déficience intellectuelle.
Tu veux faire comment? C'est toi qui donnes la consigne?
Oui, ouais.
Ouais, c'est toi.
Nous avons mis en place deux livrets d'accompagnement. Ces deux outils permettent de s'approprier l'ensemble des éléments de l'exposition de façon à pouvoir en faire bénéficier le plus grand nombre possible de personnes.
C'est quoi l'amour?
Tous ces outils sont accessibles sur le site de la FIRA, Fondation Internationale pour la Recherche Appliquée sur les Handicaps, en libre accès, bien évidemment.
Là, c'est une silhouette plaisir. On déshabille le corps humain.
Cette exposition a un intérêt tout particulier pour les professionnels en charge de l'accompagnement des personnes. Et ce, pour au moins deux raisons. La première, c'est que l'on constate que la vie amoureuse et la vie sexuelle des personnes déficientes est l'objet de nombreuses entraves qui sont illégitimes et qu'il convient de contribuer à les lever. La seconde, c'est qu'elle met en situation de collaboration des professionnels et des personnes qui sont porteuses de déficience, et que cette collaboration est une collaboration réellement égalitaire en humanité au regard et vis-à-vis de ceux qui viennent bénéficier de cette formation. On sort des rapports de suggestion, des rapports de soumission pour parvenir à une réelle collaboration qui est aussi un facteur d'émancipation.
On sent que la salle est conquise, mais ça, hein, quand maintenant qu'ils pensent qu'on va leur dire c'est quoi l'amour, c'est sûr, ça intéresse du monde. Alors Yves, Jeanne, Cécile, à l'instant, parlait de temporalité, et dans cette co-construction dont vous parlez dans la vidéo, cette temporalité, elle est au cœur, c'est-à-dire que prendre conscience que parfois des personnes avec différents handicaps n'ont pas la même temporalité que nous, et que si on veut les inclure, eh bien, il va falloir que nous, on s'adapte, il va falloir qu'on fasse le travail qu'eux vont faire aussi et qu'on leur demande en général. Ça a été vraiment extrêmement important dès le départ de la recherche.
Oui, c'était une question à laquelle on s'est affronté vraiment tout de suite. On avait dans l'idée le fait que dès le début, on travaillerait avec des personnes concernées par la déficience. On avait aussi une hypothèse de travail qui était de dire qu'il existe chez ces personnes une créativité originale permettant effectivement qu'elles puissent contribuer de façon extrêmement riche pour elles-mêmes à la possibilité de construire des outils les concernant et les intéressant. Et nous sommes partis avec ces hypothèses et ces bonnes intentions. Et au bout de deux heures, nous avions beaucoup parlé. Et on s'est tourné vers les 10 personnes trisomiques qui étaient avec nous en leur disant « Et alors vous, quelles sont vos idées ?» Elles nous ont dit « C'est très bien, merci. » Donc on a tout de suite arrêté. Et on a changé totalement notre façon de faire en prenant quelque chose que j'avais rencontré dans les pédagogues du début du XXe siècle, Bertold Otto, pédagogue allemand, qui était de dire « On va travailler par cercle. » Sur les questions abordées, les professionnels ne disent rien, les chercheurs encore moins, seules les personnes parlent. Si l'échange entre les personnes n'est pas suffisant, alors les professionnels sont autorisés à intervenir jusqu'à ce que les personnes soient d'accord sur l'intervention. Et si d'aventure c'est insuffisant, alors les chercheurs seulement interviennent. Et le résultat, ça a été que la moitié des outils que nous avons créés avec eux viennent de leur initiative. Ce n'est pas nous qui les avons imaginés. Et il y a par contre eu des phénomènes d'insight extraordinaires. Et je me souviens d'une jeune femme, on évoquait la question de la contraception. Comment parler de ça si ça intéresse des personnes? Et elle ne disait rien, elle restait dans son coin et puis elle griffonnait comme ça. Et puis, quand on a un peu fini cette conversation, elle a mis le papier au milieu de la table. Et sur ce papier, il y avait une silhouette de femme nue. Il y avait une barrette là. Ça, c'est les implants qui vont là. Une petite chose rose juste au coin de la lèvre. La pilule, ça se mange. Sans ça, ça ne va pas fonctionner. Et une très jolie encre de marine sur le sexe qui montrait un très joli stérilet. Et puis, il y avait un préservatif à côté de la dame. Et on était 25 autour de la table. Et on s'est dit, mais bon sang, c'est ça. Et les trois silhouettes que vous avez pu apercevoir tout à l'heure, c'est elle qui a eu cette idée. Ce n'est pas nous. Et il y en a beaucoup d'autres comme ça.
Et Marie-Laure, vous avez, vous aussi, partagé cette expérience de création d'outils originales. Mmh. Vous êtes la maman, hein, c'est ça, d'un jeune Melchior.
Oui, tout à fait.
Et vous êtes donc vous êtes guide, formatrice de cette exposition en binôme avec une personne trisomique. Mais avant même d'être guide, vous avez participé aussi à ce projet, à la création des outils originaux dont partait Yves à l'instant. Ça a été une expérience extrêmement forte aussi pour vous ?
Tout à fait. Et comme le disait Yves, moi, ce qui m'a vraiment émerveillée, c'est les effets sur les personnes avec une trisomie, mais aussi sur nous-mêmes, hein, en tant que, comme vous l'appelez, guide ou en tant que duo, comme Yves le dit. Parce que on a, de part et d'autre, changé de regard sur l'autre. On a été obligé de s'adapter pour travailler ensemble. Il y a eu plein de très belles choses, des choses difficiles aussi. Je me rappelle que le premier week-end, il avait été préparé, et il y avait un repas d'accueil le soir. On arrivait le vendredi soir pour pouvoir travailler le lendemain. Et sur le trajet, pour aller au restaurant, il y a eu deux malaises. Je ne sais pas si tu te souviens, Yves. Et on s'est dit, ah ouais. Eh bien, tout le monde, on ne fonctionne pas tous pareil. On n'est pas. Il faut prendre en compte cette différence. Et on avait peut-être mis la barre un petit peu trop haut. Il y avait de la pression, il y avait des attentes, il y avait de l'émotion qu'il a fallu prendre en compte. Et après, ça s'est très, très bien passé les autres week-ends. On n'a plus eu de malaise. Et on a pu travailler très correctement les uns avec les autres. Et donc, moi, j'ai la chance de travailler avec Antoine. Et je témoigne pour Antoine plus particulièrement, mais on l'a constaté aussi dans les autres binômes, cette idée que d'avoir été partie prenante de ce projet, d'avoir été considérée comme des vrais acteurs, ça a eu un effet sur leur vie. Antoine, en parallèle, hein, ce projet, il a commencé en 2015 avec des actions de sensibilisation et d'enquête. Et puis après, on a commencé, nous, un travail en binôme qui a eu lieu sur 5 week-ends, espacés de 2 à 3 mois. Moi, j'ai vu Antoine se transformer. Il a pris une confiance en lui, il s'est redressé, il a pris des responsabilités associatives. Je crois que ça a correspondu aussi au moment où il a décidé de devenir vice-président de l'association Trisomie 21 France. Il a lancé des actions auprès des jeunes. Donc, j'ai trouvé que c'était un facteur d'émancipation extraordinaire, parce que le fait de tout ce processus, les cercles de parole qu'Yves évoquait tout à l'heure, si nous, les beaux parleurs, mais ceux qui avons la parole plus facile ou en tout cas plus rapide, on prend toute la place, ils ne viendront pas la prendre eux-mêmes, cette place. Donc, imaginer des dispositifs qui permettent à chacun de prendre sa place, ça me semble essentiel.
Et ça a été transformateur pour Antoine, vous l'avez dit, aussi pour vous tous, ouais. Mais aussi pour les personnes qui viennent voir l'exposition, enfin voir et agir dans l'exposition, puisqu'ils sont acteurs et actrices de l'expo.
Alors, il y a une dimension qui est très, très intéressante. Et dont on avait l'intuition, mais dont la confirmation nous a beaucoup intéressés et aussi fait plaisir, on fait passer assez rapidement un petit dispositif d'évaluation de l'intérêt des personnes qui sont les visiteurs de cette exposition. Peut-être dire qu'on a fait une forme d'exposition parce que on s'est rendu compte, quand on a commencé à travailler avec ces personnes, qu'elles avaient toutes eu des informations sexuelles. Voilà, mais que les résultats, c'était des aberrations, des absurdités absolument inconcevables, et qu'il fallait s'y prendre autrement, et qu'il fallait partir de là où elles étaient dans leur curiosité et dans leur intérêt. Et du coup, une exposition, ça veut dire qu'on peut parler de plein de choses, mais que c'est elles qui choisissent ce dont on parle, à quel moment on en parle et dans quel ordre on en parle. Et donc, nous voilà là, et les visiteurs, on leur a fait une petite estimation, évaluation, et la chose qui revient vraiment de façon très forte, c'est que ça les intéresse d'autant plus que ce sont des personnes, elles aussi déficientes intellectuelles, qui sont les formateurs et les animateurs. Et la crédibilité de ce que ces personnes-là leur disent est infiniment plus forte que ce que nous-mêmes nous pouvons leur dire. Et c'est tout de même assez intéressant, d'abord d'avoir réussi le pari quand même, de penser que des personnes trisomiques peuvent être formatrices de leur père, et sur des questions qui ne sont pas très simples. Hein. Vous voyez bien, on parle beaucoup de sexe, on parle assez peu de nous quand on en parle, hein. Donc ça ne va pas de soi. Et le fait que la confiance se développe et que la qualité, la capacité de ces personnes à pouvoir endosser ces postures et les endosser réellement, et de mieux en mieux au fur et à mesure d'ailleurs qu'elles s'y entraînent, voilà, c'est un sujet pour nous d'une certaine fierté.
Cécile, d'ailleurs, c'est ce qui a fait aussi que Trisomie 21 France a eu envie de participer précisément à ce type de recherche. C'était un des axes de travail, le développement de l'autonomie, de la vie autonome des personnes trisomiques.
En fait, il y avait plusieurs entrées pour nous intéressantes. Il y a d'abord celle des droits et de la citoyenneté. C'est-à-dire que quand même, sur un sujet qui est très anxiogène et source d'inquiétude pour les familles, pour les entourages en général, on avait là quelque chose qui nous permettait de travailler à cette émancipation, à faire en sorte que les personnes se libèrent de ces inquiétudes, qu'elles choisissent leur vie affective et sexuelle. Donc voilà, cette entrée-là nous a particulièrement intéressés. Et puis, la question de l'expertise, sur laquelle, bon, à Trisomie 21, ça fait un moment qu'on travaille dessus, mais ce que disait Yves, c'est-à-dire partir du postulat que des personnes déficientes intellectuelles, dont Trisomie 21, étaient capables d'élaborer et étaient capables de transmettre quelque chose, de transmettre un savoir. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a vraiment, c'est en gros ce qui nous a vraiment attiré sur cette recherche-là. Et puis aussi le fait que pour une fois, on ne parlait pas de la sexualité des personnes handicapées uniquement du point de vue, j'allais dire, médical et mécanique. C'est-à-dire que là, on est, il me semble, sur des problématiques à la fois sociales, parfois culturelles, émotionnel, sur les émotions, on parle d'amour. Donc voilà, ça nous a aussi particulièrement intéressés.
Et alors cet outil, il est disponible aujourd'hui, et Marie-Laure, vous avez fait, en tant que guide, voilà, oui, présenter l'exposition, elle va continuer à tourner, et vous formez aussi, enfin vous participez, à dire à d'autres gens de s'en emparer, de s'emparer de cet outil et de le partager.
Tout à fait. C'est un outil qui est extraordinairement riche pour moi, parce que il a été conçu donc par et avec des personnes concernées par le handicap, par des soignants et par des militants et par des chercheurs. Donc vraiment, ça spécifie, parce qu'il y a des tas d'outils, je pense, qui existent déjà sur le marché pour parler de l'éducation sexuelle, mais pourquoi celui-ci est particulièrement pertinent? Peut-être parce que les images, vous avez vu, hein, les silhouettes ou les photos, ça va être des choses qui sont claires, qui sont sans ambiguïté. Il va y avoir un sens, c'est des objets univoques. Et puis, on va le renforcer par une parole. Ça, pendant la recherche, on a pu voir que au départ, il y avait des photos. Ils avaient l'idée de prendre des photos parce que c'était parlant. Et puis, en regardant les photos,
Il y en a qui n'étaient pas clairs, donc on a été obligé de trier, de, voilà, ou de renforcer par une petite phrase en dos qui, au dos qui décrivait la photo. Par exemple, pour la flèche des envies, je voudrais revenir sur cette idée parce qu'elle montre à quel point l'expo, elle enclenche une réflexion sur quelque chose qui est existentiel dans la vie de tout le monde, hein, la vie affective et sexuelle, et aussi pour les personnes avec une trisomie. La flèche des envies, par exemple, on peut voir que si on choisit une photo et on va la placer, est-ce que ça me fait très envie, ça, ou pas du tout ? Et on peut, dès la première animation, on a vu que la même photo, suivant les personnes, pouvait être placée à un endroit ou à un autre. Par exemple, le mariage, par exemple, la relation homosexuelle, par exemple, certaines pratiques sexuelles. Et ce fait-là, ça a interpellé, ça a suscité un dialogue, forcément. Comment se fait-il que la même chose, on n'arrive pas à se mettre d'accord ? Tout simplement parce qu'on est différent et on peut aussi se respecter. Mais au départ, ça ne va pas de soi. Ça suscite « Ah, bah, tu dis n'importe quoi », etc.
Tous différents. Jean-Claude Amezen, une réaction à ce qui vient d'être dit ici ?
Oui, déjà, le rapport de recherche que vous avez écrit est très, je trouve très émouvant parce qu'il est empli de douceur, je dirais presque de tendresse et de lenteur. Et ce que vous dites sur le temps qui a été laissé à l'expression de la parole, à la construction du dialogue, se sent dans la rédaction même du projet. L'autre point, c'est ce que vous disiez, hein, moi ce qui m'avait frappé, c'est que vous disiez que ce qui a le plus plu et le plus intéressé les visiteurs, c'est cette flèche des envies, qui en fait fait appel à la subjectivité et à l'intersubjectivité. Donc c'est l'amour, la sexualité, c'est ce qu'il y a peut-être de plus subjectif et de plus intersubjectif. Et donc, encore une fois, c'est la prise en compte de la personne à part entière, d'un point de vue affectif, d'un point de vue émotionnel. Et je crois, en écoutant en écoutant les précédentes présentations, il y a quelque chose. Alors, le but, c'est la recherche, c'est de comprendre et c'est de mettre en application. Mais il y a un exercice démocratique qui est au cœur de ce qu'est la démocratie. On est dans un grand débat, hein, qui va finir, mais cette notion qui est assez peu prégnante dans notre pays, que le vrai débat, c'est de s'écouter, de réfléchir ensemble, de croiser les regards, de construire dans la différence et avec la différence, c'est une idée qui existe dans un certain nombre de pays, en particulier au nord de l'Europe, mais qui est assez peu présente chez nous. Donc je crois, moi, c'est une des dimensions qui m'émeut depuis le début profondément dans la FIRA, c'est non seulement la démocratie au service de la recherche, mais la recherche au service de ce modèle de réflexion démocratique. Et donc, je dois dire que j'étais vraiment très ému par votre projet. Et j'étais, depuis le début, ému par toute la démarche de la FIRA. Et content et heureux de voir qu'elle se développe, qu'elle s'accroît, que le nombre de projets est plus grand, que le nombre de partenaires est plus grand. Et donc, je pense que c'est, encore une fois, au-delà de la situation des personnes avec handicap, des personnes en situation de handicap. C'est quelque chose qui est porteur d'espoir, je pense, pour notre pays. Si ça peut être connu, diffusé dans des cercles de plus en plus larges.